Maintenant, notre intervenant de ce soir, il s'agit donc de Bernard Meunier, qui est à côté de moi. Il est né en mars 1947. Il a été d'abord, nous aurions pu nous rencontrer, parce qu'à l'époque j'étais à l'université de Montpellier d'ailleurs, les années 70. Il a été assistant à l'université de Montpellier de 70 à 72. C'est pour ça que je le mentionne, parce que c'est quand même nos débuts de carrière. En 73, il est entré au CNRS, où il a été stagiaire de recherche, attaché, chargé de recherche, maître de recherche, directeur et directeur de classe exceptionnelle. Et de 93 à 2006, il a été enseignant contractuel au département de chimie de l'école polytechnique. Il est membre de l'Académie des sciences, comme je l'ai dit. Et vous le dirigez, le laboratoire de chimie de coordination? Non plus, hein, je suppose. Mais il est membre du laboratoire de chimie de coordination de Toulouse. Ses spécialités, vous les retrouverez sur le site quand la conférence sera mise en ligne, parce que je manque quand même de la compétence technique pour dire, pour énumérer ses travaux sur les oxydations catalytiques en phase homogène, les catalyseurs d'oxydation de polluants, la chimie des métalloporphyrines, etc. Dans les années plus récentes, je suppose, il a beaucoup travaillé sur les mécanismes d'action des médicaments, médicaments antituberculeux, mécanismes d'action de nouveaux agents antipaludiques et antibilharziose, pardon, et le rôle des ions métalliques dans la maladie d'Alzheimer. Il est l'auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées, et je vais donc lui donner la parole sur le sujet la maladie d'Alzheimer et les progrès thérapeutiques et leur lenteur, pour, comme d'habitude, une cinquantaine de minutes à une heure, et ensuite Bernard Meunier répondra à vos questions. Je vous remercie.
Merci. Merci pour cette présentation. Je vais me lever parce que je n'ai pas l'habitude de donner de conférences assis. Voilà. Donc, je voulais ce soir vous parler de la maladie d'Alzheimer. Avec la vision d'un chimiste qui s'intéresse à cette maladie depuis quelque temps. C'est une maladie du vieillissement, donc on va parler du vieillissement un petit peu. Et puis ensuite, on va discuter d'une question que tout le monde se pose. Pourquoi les progrès thérapeutiques sont-ils si lents? Vous imaginez que tous les grands groupes pharmaceutiques, de très très nombreux chercheurs en milieu académique, s'intéressent à la maladie d'Alzheimer pour des raisons évidente que tout le monde connaît, étant donné que c'est une maladie qui touche beaucoup de personnes, de plus en plus de personnes avec le vieillissement, et chacun dans sa famille, parmi ses proches, a des exemples, malheureusement. Alors, première diapositive, on va démarrer par une vision artistique du vieillissement. Le phénomène de vieillissement est quelque chose qui a toujours intéressé l'homme et l'artiste. Voilà un tableau de Baldung, Grillen, c'est un tableau qui est exposé à Vienne. Vous voyez les différents âges, le bébé, la femme dans la femme vieillissante et la mort. Les trois âges de la vie. Et vous avez une interprétation qui est celle d'une lithographie de 1820 que vous pouvez trouver dans un musée parisien. Alors vous avez l'enfance, la toute petite enfance, le début lorsqu'on apprend à marcher. Vous voyez que ce système pour apprendre à marcher aux enfants existait déjà depuis longtemps, bricolé, maintenant c'est en plastique, mais à l'époque c'était en bois. Et puis l'adolescence, la jeunesse, l'âge mûr, et ainsi de suite. Et vous voyez que vous montez jusqu'à la maturité, et puis vous redescendez peu à peu pour terminer ici. Ça, c'est une vision artistique. On va regarder maintenant les chiffres. Le vieillissement de la population française, si on regarde les choses, on a tout de même eu un formidable accroissement de l'espérance de vie sur les 50 dernières années. J'insiste sur ces chiffres parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est véritablement un grand progrès depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Regardez en rouge l'espérance de vie d'un homme en France. 1950, on est un peu en dessous de 63 ans. 63 ans. L'âge légal du départ à la retraite, à cette époque-là, était de 65 ans. Ce qui veut dire que les caisses de retraite n'avaient aucun problème. Voilà. Alors actuellement, on est là, 75. Ça peut augmenter, parce que les hommes ont considéré qu'il faut arrêter de fumer. Une consommation d'alcool encore un peu forte, ça c'est pas très très bon. Et puis il n'y a peut-être pas assez d'exercice physique, dont les problèmes d'obésité, de diabète de type 2 vont probablement infléchir l'espérance de vie. Aux États-Unis, on voit déjà une inflexion. Les femmes sont plus raisonnables, elles fument moins, ce qui était vrai à une époque, elles boivent moins d'alcool, elles font beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques. Pendant que les hommes regardent la télévision, les femmes ont des pratiques ménagères. Voyons, pour inverser, de façon à ce que les hommes puissent rejoindre les femmes. Donc voilà. Donc là, le message tout de même, sur le ton de l'humour, mais faut, c'est que nous vieillissons. Et l'âge de la fin de vie est repoussé. Alors, est-ce que c'est vrai dans le monde entier? C'est vrai dans la plupart des pays. En rouge, vous avez les zones où l'espérance de vie est encore entre 35 et 60 ans. Vous voyez que c'est principalement l'Afrique. Là, on est au-dessus de l'Afghanistan, dans des coins où l'espérance de vie est encore très faible, essentiellement dû à des problèmes d'hygiène, accès à l'eau potable, des difficultés. On peut avoir par contre des poches de réduction d'espérance de vie. À une époque, dans le Bronx, au-dessus du Manhattan, l'espérance de vie n'était pas plus élevée que dans certains pays africains, mais c'était essentiellement dû au fait que la consommation de drogue et de crack, en particulier un dérivé de la cocaïne, a pratiquement éliminé toute une partie de la jeunesse du Bronx. L'espérance de vie, la longévité, vieillissement, trois notions dont on va essayer de comprendre ce qu'elles sont. L'espérance de vie, c'est le nombre d'années, moyen d'années de vie des personnes d'une classe d'âge donnée. C'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Alors, la longévité maximale d'une espèce, ça c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça varie d'une espèce à l'autre. Alors, on prend l'exemple de la drosophile. La drosophile, c'est la mouche du vinaigre. Les biologistes sont extrêmes, le biologiste du développement utilise la drosophile, la mouche du vinaigre, comme outil de laboratoire parce que ça permet de voir ce qui se passe sur plusieurs générations assez rapidement. Au bout de 12 mois ou 10 mois si vous prenez quelques vacances, eh bien vous avez vu 10 générations de drosophiles. Alors que pour le rat, il faut attendre un peu plus, c'est 3,5. Et vous voyez que pour Jeanne Calment, il faudrait attendre pas mal d'années. Jeanne Calment a eu le record à un moment, en 2000 et quelques, de personnes la plus âgée. Voilà, vous connaissez tous Jeanne Calment et vous saviez tous qu'elle avait signé un viager avec son notaire qui est mort naturellement bien avant elle. Voilà, donc ça c'était pas très bon et elle sort totalement des statistiques pour les viagers, assurances et autres. Voilà, alors le vieillissement correspond à un ensemble de processus physiologiques et psychologiques qui se modifient avec l'âge. Donc c'est quelque chose et notre cerveau vieillit. Alors on est sensible au vieillissement de notre organisme, beaucoup plus sensible qu'au vieillissement de notre cerveau. Parce que pour notre organisme, on va voir qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Alors, est-ce que l'on peut imaginer, Jeanne Calment, 122 ans, est-ce qu'on peut imaginer l'éternité pour l'homme? La réponse est non. La réponse est non parce que tout organisme vivant a une espèce d'horloge interne qui fait que à chaque multiplication cellulaire, renouvellement des cellules, l'horloge se raccourcit un petit peu, c'est ce qu'on appelle les télomères. C'est au bout des chromosomes, et c'est des séquences répétitives. Je ne vais pas vous donner la séquence, c'est du GGTTA et forme des quadruplexes. Ça nous a passionnés, nous, en tant que chercheurs, parce qu'on essayait d'avoir des molécules capables de marquer ces télomères, parce que dans les cellules cancéreuses se débrouillent pour avoir une multiplication infinie, et donc continuer à vivre perpétuellement. On a actuellement dans certains laboratoires des cellules de cancer qui viennent d'une personne qui est décédée en 1950, des cellules LA qui correspondent aux initiales de cette personne, et on entretient des cultures cellulaires de cellules cancéreuses. Pour des cellules normales, c'est très différent. Chaque division, vous avez un raccourcissement des télomères et vous avez un marqueur biologique du vieillissement, c'est-à-dire qu'on sait qu'à peu près pour l'homme, il y a un certain nombre de cellules qui peuvent se renouveler 52 fois. Donc il y a des limites qui ont été discutées par un certain nombre de personnes. Donc, voilà. Donc vers 110, 120, 125, peut-être 130, mais le maximum est atteint. Alors, les raisons des différences entre les personnes, ça, c'est lié à un certain nombre de choses dont on va un peu discuter. Nous, on s'était intéressé à trouver des marqueurs de ces télomères. Je passe sur cet article qui est juste là pour illustrer le fait que les chercheurs publient dans des journaux en anglais et c'est un moyen de diffuser les connaissances au niveau de la communauté internationale. Voilà. Alors, quels paramètres contrôlent le vieillissement ? Non, tout le monde est intéressé par connaître ces paramètres, parce que le vieillissement, on le ressent facilement vers l'âge de 40, 50, 60 ans. Les choses se passent bien, moins bien. Les articulations, les difficultés. J'avais beaucoup de difficultés à faire passer cette notion de vieillissement chez les jeunes élèves de l'école polytechnique. Je ne comprenais pas trop, et je me souviens d'une classe qui était juste après l'épisode du Beaujolais nouveau, où un certain nombre d'élèves avaient abusé de ce breuvage, et on sentait bien que le lendemain il y avait quelques difficultés à récupérer. Et je leur expliquais, vous faites ça maintenant avec le Beaujolais nouveau, et je vous garantis qu'à 50-60 ans, vous ne ferez pas la même chose. Parce que votre alcool déshydrogénase, qui vous permet actuellement d'oxyder en grande partie de l'alcool et de détoxifier cet alcool, fonctionnera beaucoup moins bien en vieillissant. Et vous réduirez, de facto, votre consommation d'alcool. Voilà. En vieillissant, ils doivent me croire, mais au début, ils ne veulent pas tellement me croire. Donc, je ne vais pas rentrer dans les phénomènes génétiques qui contrôlent tous ces processus de vieillissement. Je voulais donner un élément... qui est ce qu'on appelle la glycation des protéines. Quand on vieillit, notre génome ne change pas fondamentalement. Notre ADN est le même, l'ADN de nos cellules est le même que lorsque l'on a eu cet ADN à la naissance. Mais il se passe un certain nombre d'événements qui font qu'il y a des modifications après le passage du gène à la protéine. Des protéines, par exemple, deviennent glyquées. Et vous en avez entendu tous parler parce qu'à partir d'un certain âge, on fait des dosages d'hémoglobine glyquée. Alors qu'est-ce que c'est que la glycation des protéines ? Dans la circulation sanguine, si on a un excès de sucre et un métabolisme du sucre qui est différent, on a des produits dont je vais vous donner la formule parce qu'en tant que chimiste, résiste pas. Pourquoi c'est si sombre que ça ? Bonjour. Voilà, il faut taper sur les machines pour que ça... Méthylglyoxale. Le glyoxale, voilà, ici, c'est un dialdéhyde très réactif qui s'accroche sur les terminaisons amines des chaînes latérales d'aminoacides et qui vient glyquer certains de vos protéines. Alors, il y a normalement des enzymes qui se détoxifient ce glyoxale, mais en vieillissant, les enzymes marchent moins bien parce qu'elles-mêmes, elles sont un peu glyquées. Et donc, il y a une quantité de glyoxale résiduel qui peut être de l'ordre de 100 nanomolaires. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec un réactif qui réagit avec les protéines. Et dans le cas de l'hémoglobine, vous avez une glycation de l'hémoglobine. Et le marqueur de l'hémoglobine glyquée est un excellent marqueur pour regarder les sujets prédiabétiques. Donc on a des dosages des hémoglobines glyquées qui permettent, le taux normal étant de quelques pourcents, et au-delà d'un certain pourcent, votre médecin habituel vous dira de faire attention, de ralentir sur la consommation de sucre et de faire un peu plus d'exercice pour consommer des sucres et non pas les accumuler. La glycation du collagène conduit aussi au vieillissement de la peau, et ça c'est quelque chose que l'on peut constater. Donc voilà, tout ça, tous les phénomènes de vieillissement, le stress oxydant. On a tous entendu parler du stress oxydant. Qu'est-ce que c'est ? Nous vivons dans une atmosphère où il y a de l'oxygène. Et nous avons besoin d'oxygène. Notre organisme a aussi besoin de réducteurs. Donc, dans notre machinerie interne, nous utilisons à la fois des électrons, des réducteurs, et à la fois de l'oxygène. Un peu comme dans la fusée Ariane, il y a des moteurs où on mélange un oxydant avec un réducteur. Ça marche bien. Ça explose de temps en temps si on ne contrôle pas, mais autrement ça marche bien. La plupart des fusées, on sait contrôler ça, c'est mélange d'oxydants et de réducteurs, d'oxygène liquide, d'hydrogène liquide, de façon efficace et ça fait fonctionner des fusées, permet de mettre des satellites autour de la Terre. Bien. La réduction non contrôlée de l'oxygène moléculaire, on va parler un petit peu plus ça, tout à l'heure, ça conduit à la formation de ce qu'on appelle en anglais les Reactive Oxygen Species, ROS. On trouve ça maintenant dans la littérature française comme si c'était un mot français. C'est tout simplement les dérivés de réduits de l'oxygène moléculaire. Et l'anion superoxyde, qui est le premier dérivé réduit de l'oxygène, est normalement contrôlé dans tous les organismes vivants par des enzymes qui s'appellent les superoxydes dismutases. Quand on a une réduction à 2 électrons, on a de l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, c'est un produit classique, en vente libre dans les pharmacies. Et ça, l'eau oxygénée, dans notre organisme, on sait le contrôler à l'aide de carcalases qui dismutent cette eau oxygénée. La seule chose que l'on ne sait pas contrôler, c'est le produit de réduction à 3 électrons, c'est-à-dire un électron de plus par rapport à la réduction à partir de l'oxygène, quand on arrive sur l'eau oxygénée. Si on rajoute un électron, on a des radicaux hydroxyles. Et ces radicaux hydroxyles, il n'y a pas de mécanisme de détoxification dans les organismes vivants. C'est ça le rôle du le vieillissement à travers le stress oxydant. Alors, au début, tout va bien parce que tous nos enzymes de détoxification marchent bien. Et puis, au fur et à mesure qu'on vieillit, ça va moins bien. Et donc, on a des problèmes avec le stress oxydant. Voilà. Radicaux hydroxyles. Dans tous les cosmétiques, actuellement, on met dans toutes les pommades, on met des choses qui sont des antiradicalaires. Les fameux antiradicalaires, c'est pour lutter contre les radicaux hydroxyles. Bien, alors comment lutter contre les radicaux hydroxyles, les radicaux libres? Alors, l'oxygène, si on arrête de respirer, finalement, on a besoin d'oxygène pour vivre. Donc ça, c'est pas une bonne solution. On peut consommer de manière modérée du vin rouge. La France considère que c'est quelque chose, depuis Pasteur, de raisonnable. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est vérifié expérimentalement. Avec le même taux de cholestérol, un gersois échappe aux infarctus et aux AVC, aux accidents vasculaires cérébraux, avec un tiers de probabilité par rapport à quelqu'un qui vit à Liverpool ou à Philadelphie. Alors on a regardé la nourriture gersoise, et on a constaté que le gersois consomme du vin rouge, du madiran, très tannique, contient du resveratrol, et c'est probablement vrai. Il mange aussi beaucoup de légumes, il fait de l'exercice, du vélo pour aller au village d'à côté, et donc il a un mode de vie qui est très différent du mode de vie beaucoup plus sédentaire à Liverpool ou à Philadelphie. Voilà. Donc l'hygiène de vie, la pratique d'exercice régulier est quelque chose qui est très important, ça nous aide à nous maintenir en forme et à éviter un certain nombre de problèmes. Je voudrais expliquer que nous ne sommes pas égaux devant tous ces problèmes de radicaux libres, de stress oxydant. Nous ne sommes pas égaux. Et je vais illustrer ce propos par la diapositive suivante. Voilà un exemple de quelqu'un qui aurait dû vivre très longtemps. Il est mort à 52 ans d'un infarctus. Alors, il est célèbre aux États-Unis parce que si tout le monde court dans la rue aux États-Unis, c'est dû à ce monsieur. Il a écrit un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires sur « Faites du jogging ». C'est Monsieur Jogging. Mais Monsieur Jogging, la génétique était contre lui. Bien qu'il fasse d'exercice, il mangeait des choses raisonnables, il buvait pas d'alcool, pas d'alcool, rien du tout. Un véritable moine courant, eh bien, il est mort à 52 ans. Mais il avait des problèmes génétiques, il fabriquait du cholestérol sans s'en apercevoir. Winston Churchill, dont vous connaissez la réputation. La consommation d'alcool de Winston Churchill a été un des secrets de la Deuxième Guerre mondiale, mais je peux vous assurer que la consommation de Winston Churchill était très importante. Il fumait. Il a eu des pneumonies, il a eu plusieurs accidents. Et sa devise, no sport. Voilà. Il est mort à 91 ans. Donc c'est vraiment vexant pour quelqu'un qui passe son temps à faire du sport et à manger des choses raisonnables et à ne pas faire d'excès de mourir à 52 ans pendant que d'autres qui ont fait. Mais il faisait de la peinture, c'était un homme serein, Winston Churchill, et voilà. Donc vous voyez, on n'est pas égaux. Retenez ça, nous ne sommes pas égaux. Même si on prend les précautions, il y a toujours des différences, des choses inattendues dans la vie. C'est ce qui en fait son charme et ses tristesses. Alors je arrive sur Alzheimer. Est-ce que notre cerveau vieillit? On s'en rend moins compte. Mais sur les articulations, c'est facile. Sur le cerveau, c'est pas facile, parce que c'est une boîte noire. On n'ouvre pas le cerveau tous les matins pour voir comment se passent nos neurones. Alors on a un vieillissement du cerveau, vieillissement normal. Nous perdons à peu près 10% de notre masse cérébrale au cours de la vie. 10%. Peut varier, mais ces 10%, c'est pas négligeable. Il n'y a pas de neurogénèse. C'est-à-dire qu'on part avec un capital en neurones, et ce capital va diminuer de 10% au cours de notre vie. Bon. Les pertes de neurones se font au niveau du cortex cérébral, la substance grise, qui sont responsables de la motricité, de la pensée, des sens. Est-ce que c'est si grave que ça de perdre 10% de ces neurones en vieillissant? Alors, Jean-Pierre Changeux a une réponse. Jean-Pierre Changeux, il insiste sur la plasticité des synapses. Les synapses, c'est des connexions entre les neurones. Donc, les circuits neuronaux se font par apprentissage ou se défont par inactivité. C'est un message extrêmement important qui, quelque part, remet en cause des méthodes éducatives modernes. Réciter, apprendre du par cœur était considéré comme quelque chose de très important pour l'éducation des enfants jusque dans les années 1960-70. Maintenant, on considère que c'est quelque chose d'horrible d'apprendre par cœur et ainsi de suite, de connaître des tirades entières du Cid de Corneille. Et c'est des choses qui permettent de construire le cerveau. Le cerveau est une machine qui demande qu'à fonctionner. Donc plus vous amenez, vous exposez un enfant à des choses compliquées, mieux ça marche. Un enfant va très facilement apprendre des langues étrangères, alors qu'à partir de 60-65 ans, on a beaucoup plus de difficultés. Donc, n'ayons pas peur d'utiliser notre cerveau. L'arthrite cérébrale n'est pas encore décrite. Les neurones et les synapses, quelques chiffres qui sont intéressants. Un fœtus fabrique de l'ordre de 8 neurones par seconde. C'est la construction d'un ordinateur moléculaire extraordinaire. 8 neurones de novo par seconde. Un cerveau normal, c'est 100 milliards de neurones. Bon, ça fait déjà un bel ordinateur. Même un modèle comme ça qui est assez puissant, c'est pas. Il y a entre 10 puissance 14 et 10 puissance 15 synapses, connexions entre neurones dans le cerveau. Chaque millimètre cube de cerveau contient 1 milliard de synapses. Voilà un bel ordinateur moléculaire. On parle de l'ordinateur moléculaire comme étant l'ordinateur du futur. Il existe, il est là, derrière notre boîte crânienne. Donc, utilisons notre cerveau, n'ayons pas peur de lire, d'apprendre et d'avoir des activités intellectuelles. Ça permet de garder le cerveau en bonne forme. La neurogénèse. Comment se fait-il, alors qu'on a un renouvellement des cellules de la peau, comment se fait-il qu'on n'a pas de renouvellement des neurones? Bon, bien, c'est comme ça. Le modèle humain a été fabriqué chez les animaux qui ont un cerveau, de la même façon. Alors, il y a un peu de neurogénèse au niveau de l'hippocampe. À l'extérieur du cerveau, on a des renouvellements de la neurogénèse dans le nez, par exemple. Ça permet, pour ceux qui ont un nez, un talent à détecter, classer les différentes odeurs, de garder ce talent quand l'âge s'avance. Voilà. Alors, quelques symptômes de la maladie d'Alzheimer. En vieillissant, ne pas se souvenir le nom d'un collègue, ça c'est classique, le nom d'un voisin, c'est tout à fait classique, et ne criez pas en disant « je vais vers un Alzheimer ». Quand vous oubliez un nom, vous débrouillez dans votre phrase pour faire une périphrase et vous permettre de décrire ce que vous avez envie de décrire, sans qu'il y ait de problème majeur, et la personne ou l'auditoire qui est en face de vous comprend. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, le nom manquant va être remplacé par quelque chose de totalement incohérent avec le sens de la phrase, et ça n'aidera pas à la compréhension. L'exemple le plus connu, c'est quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, ne se retrouve pas dans sa propre rue. Ça, c'est le signe le plus important, et c'est le signe d'une maladie déjà fortement avancée. La désorientation devient grave, et ensuite, selon les cas, vous avez effectivement des troubles du comportement qui peuvent conduire à des variations d'humeur brutales, et la maladie dure longtemps. C'est une maladie qui, après une période d'induction lente dont on ne sait pas trop combien l'estimer, est une maladie qui va s'étaler sur plusieurs années et qui est extrêmement difficile, qui est, à mon avis, à mon sens actuel, un des problèmes de santé publique les plus importants. Quelques chiffres que vous connaissez, parce que ce sont des chiffres disponibles dans les journaux. 10% des personnes au-dessus de 65 ans, entre 5 et 10%, là il y a des discussions sur savoir ce que l'on appelle démence frontale, démence sénile, maladie d'Alzheimer. 30% au-delà de 80 ans ou 85 ans. En France, on considère qu'il y a 400 000 à 450 000 personnes sont atteintes par la maladie d'Alzheimer. Les projections, et dans ce domaine-là, souvent les projections s'avèrent exactes, 1 million de personnes d'ici 2020, ce qui est assez effrayant, et qui pose beaucoup de problèmes, comme vous le savez. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est d'origine génétique? La réponse est oui, pour quelques pourcents des cas. Il y a quelques malades pour lesquels il y a des modifications génétiques dans le cerveau qui font qu'à partir de 50, 60 ans, 65 ans, il y a un déclenchement de maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire bien avant l'âge habituel pour un Alzheimer à partir de 75, 80 ans. Donc 95% sont ce qu'on appelle des cas sporadiques. C'est une maladie du vieillissement. C'est pas une maladie qui est née à une origine génétique. Donc c'est compliqué. C'est-à-dire que on a affaire à une maladie qui est localisée dans le cerveau, qui est dans une boîte crânienne, que l'on n'a pas l'habitude de franchir rapidement. Il faut bien savoir actuellement que dans l'exploration du corps humain est complet. On peut faire des choses maintenant que l'on n'imaginait pas il y a 20 ans. Des coronaires bouchés il y a 20 ans, 25 ans, un peu plus, on va être 30 ans. C'est un véritable problème. On a eu la période des pontages. Et maintenant, par l'artère fémorale, vous envoyez un petit ballonnet, un petit stent, comme on dit, qui va se mettre en place, déboucher, maintenir la coronaire débouchée. C'est des choses qui sont en routine. Des centaines de personnes ont des poses de stent et récupèrent une vie normale. Il y a 30 ans, ce n'est pas possible. Maintenant, les méthodes d'imagerie, on est sorti des rayons X classiques avec des différentes méthodes d'imagerie. Donc on peut aller voir au point de vue chirurgical, microchirurgie ou autre, un peu partout, mais dans le cerveau, on essaye d'éviter d'aller voir un peu souvent ce qui se passe. Et quand il faut voir la boîte crânienne, c'est en général, il y a un problème, une tumeur, des choses compliquées ou un accident. Donc ça, c'est un obstacle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre boîte crânienne est protégée par une barrière, la barrière hémato-encéphalique, qui est un moyen de protéger le cerveau de tout ce qui vient de l'extérieur. Le cerveau consomme principalement de l'oxygène, du glucose, a un certain nombre d'ingrédients qui viennent de l'extérieur, mais il y a un filtre. Il y a un filtre. On le sait très bien que dans les traitements de cancer de tumeurs du cerveau, il y a des molécules anticancéreuses qui traitent des tumeurs lorsqu'elles sont dans le corps, différentes locations du corps, mais qui ne passent pas la barrière hémato-encéphalique, et donc le traitement de tumeurs cérébrales n'est pas toujours facile et aisé. Donc voilà les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire d'investigation facilement pour regarder ce qui se passe dans le cerveau. Les modèles animaux sont peu prédictifs. Quand on veut découvrir des médicaments, il y a deux étapes essentielles avant la clinique humaine. Une première étape que l'on va qualifier de in vitro, c'est-à-dire des cellules isolées, des systèmes simplifiés. Le chercheur va tester des hypothèses et va essayer d'en tirer des conclusions et de se dire ce type de molécule pourrait apporter une amélioration, améliorer la survie du neurone dans une période où le neurone est face à un stress oxydant, des choses comme ça. Donc ça, vous pouvez faire des tests in vitro. La deuxième étape, c'est un système très simplifié, une cellule. Nous sommes composés de millions et millions et milliards de cellules. Donc, autant avoir un petit modèle animal prédictif qui permette de voir si ce que l'on a vu in vitro s'avère efficace. La souris de laboratoire, de 30 grammes environ, est l'outil idéal. C'est un petit mammifère. La circulation sanguine chez la souris, ça va 5 fois plus vite que chez l'homme. Mais il y a des paramètres que l'on connaît, on sait faire les différences, métabolisme est différent. Mais enfin, ça donne une idée tout de même de ce que peut être l'avenir d'une molécule. Cette molécule qui avait une activité in vitro, est-ce qu'elle la conserve in vivo? Alors il faut créer un modèle. Alors, c'est difficile pour... si vous testez un antibiotique, vous pouvez infecter avec une bactérie la souris et voir si vous guérissez la souris. C'est relativement facile. Il y a des modèles animaux validés par la communauté scientifique et pour lesquels on peut tirer des conclusions et se dire on a une chance raisonnable, après avoir vérifié que la molécule n'a pas de toxicité particulière pour la sécurité avant d'aller utiliser la molécule chez les premiers patients ou chez les volontaires sains. On s'entoure donc de précautions, mais après, on se dit, après les études qui ont été faites sur les souris et un modèle pharmacologique validé, on peut espérer avoir une activité intéressante chez le patient. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, qui n'est pas une maladie d'origine génétique, on a du mal à concevoir des modèles animaux pour cette maladie. Alors la tendance actuelle, c'est de considérer que l'on doit faire des modèles transgéniques. Alors on fait des modifications génétiques qui conduisent à un vieillissement du cerveau chez la souris. Et on a ces modèles doublement, triplement transgéniques. On a même des modèles où il y a 4 modifications génétiques actuellement. Et ce sont des modèles qui ont largement été utilisés sur les 15 dernières années. Je les ai moi-même utilisés. Je les trouve très peu prédictifs. Parce qu'en fait, la maladie d'Alzheimer n'étant pas une maladie d'origine génétique, quand vous faites un modèle génétique d'une maladie non génétique, ça veut dire que vous injectez quelque part une hypothèse en disant il y a un dysfonctionnement à partir de tel gène ou tel gène. Et donc vous sélectionnez des molécules qui sont en fait calées sur l'hypothèse de départ. Mais comme vous n'avez pas en main, personne n'a actuellement en main la compréhension complète de ce qu'est la maladie d'Alzheimer, les facteurs déclenchants, de tout ce qui se passe dans la période d'induction avant l'apparition des lésions au niveau de l'hippocampe, qui vont faire disparaître des neurones correspondant à la perte de mémoire épisodique. Comment fait-on? Et là, il y a, à mon avis, un véritable enjeu pour les scientifiques, pour les gens qui cherchent à développer des médicaments. C'est comment développer un modèle animal pertinent sur une maladie non génétique qui est dans le cerveau. C'est probablement la raison pour laquelle on bute actuellement. On piétine. La maladie d'Alzheimer est une maladie sur laquelle tous les grands groupes pharmaceutiques ont consacré des sommes colossales. Et sur les 10 à 15 dernières années, on reste avec 3-4 inhibiteurs d'acétylcholinestérase, un inhibiteur de la recapture de N-méthylaspartate qui est la mémantine. Et voilà. Et ce sont des médicaments, entre guillemets, qui font peu de choses. Au mieux, une stabilisation des patients, mais rien, rien qui permettrait, ce que tout le monde cherche et attend, c'est une molécule qui puisse stopper le début de la maladie. On ne va pas créer des neurones. On ne va pas régénérer des neurones dans le cerveau. Donc, il faut associer de l'imagerie puissante pour pouvoir détecter le début de la maladie et une molécule capable de passer la barrière hématoménagée et aller inhiber la perte de mémoire épisodique de façon à ce que l'on bloque dès le début l'évolution de la maladie. Voilà l'enjeu thérapeutique actuellement pour la maladie d'Alzheimer. Personne n'a de solution actuellement. Tout le monde cherche, mais il n'y a pas encore de solution. Voilà. Alors, je vais essayer tout de même de ne pas aller vers quelque chose d'un peu plus optimiste, parce que je vais vous raconter un peu les efforts qu'on essaye de faire dans mon équipe et des collaborations que je peux avoir. Ayant utilisé des souris transgéniques, j'ai vu des difficultés. Alors, élever des souris transgéniques, pour faire des manipulations, il faut les élever pendant 6 mois. Si la souris transgénique commence à avoir des... sont très agressives, alors que normalement les souris aiment vivre ensemble dans des cages, entre on met une dizaine de souris ou une quinzaine de souris dans la même cage, ça ne pose pas de problème. Souris transgénique, une souris par cage. Si la personne qui s'occupe des souris transgéniques a besoin de prendre un congé, et c'est une autre personne qui vient s'occuper de nettoyer les cages et entretenir l'animalerie, les souris transgéniques sont perturbées, il y en a certaines qui se jettent, se blessent contre leur cage. C'est vraiment des modèles difficiles à manipuler. Et une simple expérience peut durer 9 mois. Ce qui est très long. Très très long. Quand vous infectez une souris pour tester un nouvel antibiotique, ça prend 8 jours. Donc vous pouvez faire plusieurs choses au cours d'une année. Donc c'est véritablement un problème. Alors, je vais vous parler de souris non transgéniques et on va vous parler d'une hypothèse que l'on a testée qui est le problème des ions métalliques dans le cerveau. Quelques images. Voilà un cerveau post-mortem d'une personne atteinte par la maladie d'Alzheimer. La perte de neurones est telle que vous avez une diminution de la masse cérébrale de l'ordre de 25 à 30%. Quand vous regardez le métabolisme, la façon dont le cerveau utilise du glucose, on utilise beaucoup de glucose quand on réfléchit beaucoup, et vous voyez, ça c'est un cerveau normal, il y a du jaune et du rouge un peu partout, et là il y a un peu de rouge, un peu de jaune au milieu, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne pas comme il faut. Le stress oxydant est à l'origine de la disparition des neurones. Alors, il y a 2 mots que vous entendrez, ou vous lirez sur la maladie d'Alzheimer, on vous parlera de plaque d'amyloïde, je vais en dire 2 mots, et puis de l'hyperphosphorylation de la protéine tau. Ça, l'hyperphosphorylation de la protéine tau, ça se passe à l'intérieur des neurones, et les amyloïdes, ce sont des peptides réticulés à l'extérieur des neurones. Donc il y a 2 hypothèses qui circulent. Moi, je me suis intéressé particulièrement aux amyloïdes à l'extérieur des neurones. Alors, ces amyloïdes sont des peptides qui contiennent 40 ou 42 aminoacides, ce qu'on appelle de l'abêta-40 ou l'abêta-42. Et ces peptides ont une particularité, c'est qu'ils se mettent en U. Voilà un de ces peptides. Et ces U s'empilent de manière remarquable pour faire un réseau très réticulé. Il y a une agrégation, et c'est cette agrégation d'amyloïdes que l'on appelle des plaques séniles, et que l'on voit au microscope, ou après avoir ouvert une boîte crânienne post-mortem. Bien. Ces plaques ont une particularité, c'est qu'elles ont la possibilité de fixer en excès des ions métalliques. Donc il y a une espèce de réticulation excessive dans le cerveau des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer de ces plaques d'amyloïdes. Dans le cerveau normal, les amyloïdes existent, mais les plaques peuvent en quelque sorte bouger. Il y a des équilibres entre les formes auto-associées agrégées importantes, les monomères, les dimères. Bon. Il y a des équilibres qui se passent. Visiblement, lorsque l'on a une dérégulation de l'homéostasie des ions métalliques, qu'est-ce que ça veut dire, homéostasie des ions métalliques? C'est la régulation de la circulation des éléments dans le corps humain ou de la température. L'homéostasie de la température, c'est le fait qu'on est à 37 degrés, plus ou moins 0,2 en temps normal, et la température ne bouge pas. Il y a une régulation des choses. Vous avez une régulation de la pression sanguine. Et vous avez une régulation, normalement, de la circulation des ions métalliques dans le cerveau. Quand il y a une perturbation, ça pose des problèmes. Ces ions métalliques, en particulier les ions métalliques cuivre, fer, sont des ions métalliques à activité redox, c'est-à-dire que dans un milieu vivant, dans un organisme vivant, ils peuvent être réduits par les sources d'électrons que l'on a, le NADPH, le glutathion, les réductases. Donc, on peut avoir le cuivre 2 réduit en cuivre 1, mais lorsque les choses se passent normalement, ces ions métalliques sont contrôlés par des transporteurs installés dans des métalloenzymes. Nous avons besoin de métalloenzymes dans le cerveau des métallo-enzymes à cuivre, parce que, pourquoi ? Parce que les neuromédiateurs de type DOPA, qui posent problème dans le Parkinson, eh bien, sont créés à partir d'hydroxylation de la tyrosine. Donc on a des hydroxylations contrôlées de la tyrosine avec des enzymes à cuivre. Donc on a beaucoup de cuivre dans le cerveau. Et une hypothèse sur laquelle je travaille un certain nombre de personnes, c'est que la maladie d'Alzheimer pourrait être liée à une dérégulation de l'homéostasie des ions métalliques et en particulier du cuivre. On va regarder ces chiffres qui correspondent à l'analyse de la quantité de cuivre sur des plaques chez des patients décédés de maladie d'Alzheimer. 400 micromolaires, vous voyez que dans le cerveau normal, c'est seulement 70. Ce n'est pas 10% de plus, c'est de l'ordre de 5 à 6 fois plus. La concentration dans le sang, c'est 10 micromolaires. Ce n'est pas des ions libres, c'est des ions qui sont complexés par des protéines et autres. Mais vous voyez que chez les patients, il y a une véritable accumulation d'excès de cuivre. C'est valable aussi pour le fer et pour le zinc. Beaucoup de zinc dans le cerveau. Le zinc est impliqué dans l'allostérie des protéines. Donc vous avez des interactions, modulation d'interactions protéines-protéines, où le zinc est impliqué, donc on a beaucoup. Mais post-mortem, voilà les chiffres. Donc on peut considérer, je passe parce que j'ai parlé beaucoup de réduction d'oxygène moléculaire, de radicaux H point, une question que tout le monde pose, et qui s'est posée il y a une vingtaine d'années à propos de maladie d'Alzheimer, c'est l'aluminium. Alors, on avait beaucoup de batteries de cuisine en aluminium, de casseroles en aluminium, dans les années, à partir de la maîtrise d'aluminium, au début du XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle. Et là, on s'est dit, mais l'aluminium, maladie d'Alzheimer, donc il y a une campagne anti-aluminium pour le plus grand bien de l'acier inoxydable. Et tout le monde a actuellement des batteries en acier inoxydable. L'aluminium a pratiquement disparu des batteries de cuisine. Quand on regarde les choses, toutes les tentatives d'analyse montrent que dans un cerveau d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas d'accumulation significative d'aluminium. On citera quelques cas au Pays de Galles où il y a un peu plus, mais enfin, globalement, sur des centaines de personnes, il n'y a pas de... Oublions, ça a juste fait changer nos batteries de cuisine pour le plus grand bien, l'acier inoxydable étant très bien, facile à nettoyer et pose pas de problème. Alors, trois questions sur les ions métalliques. Est-ce que l'excès de ces ions métalliques conduit à une activité redox, donc l'origine d'un stress oxydant, parce qu'il n'y a pas de contrôle de ces ions métalliques par les protéines de régulation de transport ? Est-ce que la maladie d'Alzheimer est due à cette dérégulation du cuivre dans le cerveau ? Et est-il possible d'imaginer des molécules capable d'aller chélater le cuivre fixé sur ces amyloïdes pour le remettre dans le circuit, c'est-à-dire le circuit où il peut être récupéré par les transporteurs et réinternalisé dans les neurones pour faire des neuromédiateurs. Si vous avez un excès de cuivre à l'extérieur des neurones, sachant qu'il y a un certain nombre il y a une nécessité pour avoir du cuivre à l'intérieur des neurones, ça veut dire que vous allez avoir une déplétion de la quantité de cuivre à l'intérieur des neurones. Donc, voilà l'enjeu. Essayons d'imaginer des molécules capables d'aller chercher dans ce polymère hautement réticulé que sont les amyloïdes, les ions cuivre en excès. Alors, donc, pardon, voilà. On a imaginé des molécules avec des motifs où il y a quatre ligands autour du cuivre dans la même molécule, parce que le cuivre a besoin d'avoir quatre ligands pour qu'on puisse le complexer de manière forte. Ces molécules ont été synthétisées, testées. La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont capables d'inhiber la formation d'eau oxygénée, ça c'est la réduction de l'oxygène moléculaire, lorsque l'on met en présence des amyloïdes, du cuivre et un réducteur. Type glutathion, ascorbate ou autre, un réducteur qui a un caractère endogène qu'on retrouve dans les organismes vivants. Et effectivement, on voit que si on n'a pas de chélateur, on a ce niveau de production d'eau oxygénée, et quand on a des chélateurs qui sont soit en jaune, une molécule qui est un monomère par rapport au dimère que j'ai présenté, je vous parlerai d'une molécule qu'on va appeler la PA1637, qui est un bis une bicide amino, 8 aminoquinoline, vous voyez qu'on a inhibition de, forte inhibition de la production d'oxygénés. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. In vitro, ça nous permet de sélectionner des molécules. Donc si on a ces molécules capables d'inhiber, de complexer le cuivre, on l'a vérifié, est-ce que ces molécules sont capables de faire quelque chose, de maintenir la mémoire épisodique chez des souris qui ne sont pas des souris transgéniques? Alors il a fallu réfléchir à la mise au point d'un modèle de souris non transgénique. Je ne voudrais pas faire de l'épicerie, mais toutes ces histoires de souris transgéniques, il faut bien voir que ça représente des petits sous. 1200 euros pour une souris. C'est compliqué, il faut une par cage, les élever pendant 6 mois, et ainsi de suite. Alors vous me direz, dans le domaine de la santé, aucune importance, dépensons de l'argent. Sauf que pour une jeune entreprise, 10 euros pour une souris normale ou 1200 euros pour une souris transgénique, c'est pas tout à fait la même chose. Et ce prix, ces différences de prix reflètent aussi la complexité de ces modèles de souris transgéniques. Alors on s'est amusé, intéressé à faire des modèles de souris non transgéniques. Alors comment on fait? On part de l'hypothèse que les amyloïdes sont à l'origine des problèmes. Donc on injecte de manière très précise près de l'hippocampe une petite quantité d'amyloïdes 1,42. C'est l'amyloïde le plus toxique, celui qui a la plus forte réticulation. Une seule injection et on laisse les souris tranquilles pendant 20 jours. 21 jours, on sort les souris, on va les mettre dans une petite cage, qui est ici. Il y a des rayures sur le côté, il y a une caméra au-dessus qui regarde la souris, qui va voir si la souris bouge. Et la souris rentre dans la cage et une souris normale regarde la cage, elle explore le paysage, elle se promène. Au bout d'un petit moment, c'est chronométré tout ça, il y a un bip sonore, juste comme ça pour avertir la souris, et un tout petit choc électrique sur la plaque du bas, ce qui fait que la souris ressent un choc électrique sur les pattes. On la ressort de cette chambre d'expérimentation. On la laisse au repos dans sa cage avec ses collègues pendant 24 heures. Et le lendemain, on remet la souris dans ce même environnement. La souris normale, qui a gardé la mémoire de cette cage avec les rayures, se souvient qu'il y a eu un petit choc électrique. Donc elle va s'immobiliser. Alors, comme on publie en anglais, on appelle ça les périodes de freezing. Elle ne bouge pas. Et avec la caméra, vous pouvez regarder, chronométrer le temps où elle est immobile. Parce qu'elle n'a pas envie de bouger, parce qu'elle sent qu'elle va avoir un choc électrique. Voilà. Donc ça, c'est des souris normales. Les souris qui ont reçu de l'amyloïde dans le cerveau, 20 jours auparavant, bien, il y a 50% de perte de mémoire épisodique. Ça veut dire que, pour faire simple, on va dire qu'il y a une chance sur deux pour que la souris se souvienne pas du tout que la veille, elle a eu un petit choc électrique, donc au lieu de rester immobile, elle bouge. Donc ça, faire ça sur plusieurs souris, vous arrivez de manière assez précise à mesurer cette perte de mémoire épisodique, qui représente un peu ce qui se passe dans le début des maladies d'Alzheimer. Alors voilà des expériences telles que ça se présente en bleu sur les souris normales. On n'a rien fait, simplement on leur a injecté l'excipient dans le cerveau pour les faire exactement ce qu'on fait aux autres souris. Et ça, c'est le repère, c'est le contrôle. En vert, ce sont les souris qui ont reçu cet amyloïde et qui, au bout de 20 jours, vous voyez, ont perdu la capacité à se souvenir, ont perdu en grande partie la capacité à se souvenir que la veille, au 20e jour, elles avaient eu un petit choc électrique sur les pattes. Et lorsque vous traitez des souris qui ont reçu cet amyloïde 3 fois par semaine, les 2 premières semaines et 2 fois la 3e semaine, à 25 mg par kilo, ce qui est une dose tout à fait raisonnable, par voie orale. On n'imagine pas faire des médicaments pour la maladie d'Alzheimer autrement qu'utilisable par voie orale. Eh bien, vous voyez que nous, on a une récupération de la mémoire épisodique. Avec les petites barres, c'est l'erreur expérimentale, c'est assez propre comme manip, au niveau des souris contrôle. Donc, on a inhibé la perte de mémoire épisodique avec ces chélateurs. Est-ce que ce modèle animal est valable ou pas? Alors, pour valider un peu le modèle animal, on fait, je m'excuse pour les gens du fond, c'est pas très lisible, mais on prend non pas le peptide avec la séquence allant de l'aminoacide numéro 1 à 42, mais on inverse. C'est-à-dire chaque aminoacide est accroché dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle le 42-1. C'est la séquence inverse, c'est le même peptide de même composition d'aminoacide, mais accroché, tricoté autrement en quelque sorte. Et là, c'est un contrôle, on est au même niveau que les souris normales. Donc l'amyloïde 1,42 est toxique, l'amyloïde 42,1 n'est pas toxique. Donc ça c'est important, et ça permet de récupérer. Alors maintenant on peut essayer de voir si c'est juste avec cette molécule, PA1637, ce qui serait dommage, ou si ça s'avère exact, ça c'est une molécule, un chélateur de cuivre qui a été utilisé par un collègue qui est la plupart du temps, une grande partie de son temps à Harvard et le reste en Australie, le thioquinol, qui est une molécule qui a été utilisée dans des essais cliniques jusqu'en phase 2A. Il est un peu trop toxique, donc les 2A, c'est le début de traitement de quelques patients. On n'a pas été plus loin avec cette molécule parce qu'il y avait une certaine toxicité qui ne permettait pas de développer cette molécule. Mais vous voyez que là aussi, on retrouve l'activité anti-Alzheimer, si je peux me permettre. Et en rouge, on a toujours la molécule 1637 qui est au niveau du contrôle. Il y a une molécule qui s'appelle la mémantine, qui est l'inhibiteur de N-méthyl-D-aspartate, qui est utilisée dans le traitement. C'est actuellement probablement une des molécules qui est la plus active dans le traitement de la maladie d'Alzheimer. Et vous voyez qu'on retrouve l'activité de la mémantine au même niveau que la colonne bleue qui correspond aux souris contrôle. Donc voilà le genre d'expérience que l'on fait actuellement. C'est une piste. Il existe des dizaines d'autres pistes explorées par des dizaines d'autres laboratoires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de faire des efforts. Et voilà un exemple de ce que l'on fait dans le laboratoire. Voilà, je vais vous donner même maintenant le nom des personnes qui ont travaillé. Donc au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse, vous avez ces personnes. Palumet, qui était une jeune société que j'ai créée, qui s'occupait de paludisme et aussi de maladie d'Alzheimer. Et puis à l'université de Toulouse, j'ai réussi à convaincre un collègue, Jean-Michel Lassalle, qui s'intéressait surtout au rôle du cuivre dans l'apprentissage de la mémoire, de s'intéresser au zinc. Et c'est avec lui que nous avons développé ce modèle de souris non transgénique. Voilà. Et je termine sur cette diapositive. C'est notre souhait à tous, c'est de bien vieillir et de mourir en bonne santé.
Merci. Merci beaucoup Bernard Meunier. Nous allons passer aux questions. Voilà, il y en a une tout de suite en descendant. Voilà. On vous passe le micro. Allez-y, monsieur.
Mais la maladie d'Alzheimer touche-t-elle d'autres espèces, les singes par exemple?
On peut déclencher de l'Alzheimer chez le singe. L'utilisation des singes en pharmacologie est assez strictement contrôlée. L'utilisation des primates fait l'objet d'utilisation devant des comités d'éthique. Et en général, on utilise des primates pour tester la validité de vaccins, parce que les souris ont un système immunologique qui est totalement différent de l'homme. Et donc, on ne peut pas avoir un mode souris correct pour les vaccins. Donc, on évite actuellement d'utiliser de manière intensive des primates dans l'expérimentation pharmacologique.
Oui, j'ai entendu parler de la nicotine. Qu'en pensez-vous?
Je pense que le tabac est mauvais et je ne considère pas que la nicotine soit l'avenir du traitement de maladies d'anti-Alzheimer. Voilà. Alors, l'avantage de la nicotine, c'est aussi le fait que les gens qui fument beaucoup et qui boivent beaucoup meurent avant d'avoir la maladie d'Alzheimer. Voilà. C'est une maladie du vieillissement. Donc, si vous mourrez parce que vous avez fait tout un tas de bêtises avant l'âge de 60 ans, vous n'avez pas de problème avec la maladie d'Alzheimer. Voilà.
Pensez-vous...
Oui. Pensez-vous que dans la maladie d'Alzheimer, si on faisait des autopsies systématiques de gens qui ont pour lequel on ait un doute clinique, puisque la maladie d'Alzheimer, jusqu'à ma dernière connaissance, ce n'est qu'une impression clinique. Ça ne leur, à part si on fait des clichés, je pense, du crâne ou du cerveau, on n'aurait pas d'éléments.
Qu'entendez-vous par autopsie?
Autopsie
post-mortem.
Moi, je veux dire, regardez.
On fait systématiquement, on le fait, mais ce qui est intéressant actuellement, c'est de développer de l'imagerie du cerveau extrêmement sophistiquée, de façon à voir l'activité neuronale et les modifications dans l'activité neuronale, en particulier dans les zones impliquées dans la maladie d'Alzheimer autour de l'hippocampe, de voir s'il y a des modifications. Donc vous avez actuellement l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à la Pitié-Salpêtrière, qui est un des centres en France, qui est en train de développer beaucoup de recherches, beaucoup d'imagerie, pour essayer d'avoir c'est un des centres en France où il y a le plus d'efforts pour développer de l'imagerie extrêmement sophistiquée, pour suivre, en fait, détecter le début de l'évolution de la maladie, et si possible ensuite avoir un suivi des approches thérapeutiques nouvelles, pour mettre en évidence l'efficacité des nouvelles molécules liées à une imagerie correcte. Voilà, imagerie de haute définition.
Madame.
Ma question consiste, à vrai dire, les problèmes de jeunes, parce qu'il y a plus en plus de cas de jeunes, même à partir de l'âge de 15 ans, qui sont diagnostiqués de maladie d'Alzheimer. Donc, la dimension telle qu'elle, elle existe depuis l'humanité existe, et naturellement, est bien convaincante. Donc, tout ce qu'on sache sur la maladie d'Alzheimer n'explique pas trop les cas de jeunes. Pourquoi ils tombent malades, si c'est bien diagnostiqué. Mais je voulais rajouter aussi une remarque peut-être étrange, mais qui me vient dans l'esprit par rapport à un terme qui vous connaissez très bien dans le milieu des CNRS. Il s'agit de plasticité cérébrale qui n'existe pas naturellement. Bien évidemment, vous l'avez dit, que neurogenèse, c'est un peu dans l'hippocampe et même pas hippocampe au-dessus, mais c'est rien du tout. Donc, tout ce qu'on explore sur le cerveau humain, et on les explore à l'échelle planétaire, alors sachant que ça peut donner les effets sur les synapses, justement, qui, à un moment donné, refusent de fonctionner. Et est-ce que ce n'est pas la cause de la mort neuronale, tout simplement. Et donc, est-ce que ce n'est pas vrai si on ne crée pas la maladie Alzheimer comme plein d'autres maladies, hein? Nous sommes des créateurs, d'une certaine manière, d'une maladie qui est apparue il n'y a pas longtemps, hein, qui va se développer de plus en plus, qui va prendre plus de couches de la société, même bon. Peut-être le bébé, si on explore aussi les fœtus.
Si vous permettez, je vais essayer de répondre à votre question. En ce qui concerne les jeunes de 15 ans, je ne suis pas un spécialiste de l'épidémiologie de la maladie d'Alzheimer, je ne suis pas médecin, je n'ai pas les chiffres officiels comme les gens peuvent le voir dans les unités d'épidémiologie de l'INSERM. Mon sentiment, c'est que c'est tout de même très controversé, cette idée de jeunes avec la maladie d'Alzheimer. Je voudrais tout de même dire une chose. Les jeunes entre 15, 20 et 25 ans, 30 ans, sont pas exposés à la maladie d'Alzheimer. Ils sont exposés à toutes les saloperies qu'on nous vend à la sortie des collèges et des lycées et qu'on achète même dans cette université à une époque où il y avait un trafic dans le hall d'entrée. Et ça détruit le cerveau. On tolère dans ce pays le fait que les jeunes s'intoxiquent avec tout et n'importe quoi vendu par des trafiquants. C'est un véritable problème qui est plus sérieux que d'imaginer qu'il y a quelques cas de maladie d'Alzheimer à 15 ans. Je referme ma parenthèse. Voilà. Alors maintenant, sur le problème des synapses et des neurones, est-ce que c'est la destruction des neurones ou un dysfonctionnement au niveau des synapses? Il y a tout de même la constatation qu'il y a une disparition de la masse de neurones. Quand vous regardez ces images post-mortem de cerveau atteint par la maladie d'Alzheimer, vous avez du vide, qui est simplement dû au fait qu'il y a 20 à 30% de la masse des neurones qui a disparu. Est-ce que ça a été précédé par un dysfonctionnement synaptique ? Peut-être, mais en conclusion, c'est une perte de neurones. Alors, je voudrais juste dire une chose sur est-ce que c'est une maladie nouvelle ? La description par le docteur Alois Alzheimer de la maladie d'Alzheimer, qui était une parfaite description au point de vue anatomopathologique et psychiatrique, a été faite en 1905. Donc les cas de démence sénile étaient parfaitement connus et les cas de la description de maladie d'Alzheimer a été parfaitement décrite il y a plus d'un siècle. Donc voilà, ce n'est pas une maladie totalement nouvelle. Mais dont l'occurrence est plus importante avec le vieillissement.
En haut, là, monsieur.
Comment fonctionne la barrière hémato-encéphalique et quels sont les mécanismes utilisés pour pouvoir la contourner de sorte que vos...
On ne peut pas la contourner. C'est une enveloppe autour du cerveau. Heureusement qu'elle n'est pas contournable. Mais sinon, on aurait tous les toxines qu'on a fait des excès alimentaires qui passeraient dans le cerveau, on aurait des problèmes. Elle n'est pas contournable. Elle est là, elle nous protège. Notre cerveau.
Et vous avez dit qu'il était nécessaire de la franchir pour...
Eh bien, il faut se débrouiller pour avoir des molécules qui ont des propriétés physico-chimiques qui permettent de la franchir. Alors, il y a tout un tas de règles du jeu. Les physico-chimistes et en chimie médicinale, il y a ce qu'on appelle les règles de Lipinski pour que la masse moléculaire soit inférieure à 500, qu'il n'y ait pas trop de liaison hydrogène possible, qu'il y ait ceci et cela. Donc, il y a des espèces de... C'est de la cuisine de chimie médicinale dans laquelle je ne suis pas rentré, quoi. Voilà. Et puis après, on teste ça sur des modèles de barrière hémato-encéphalique pour voir si on a des molécules qui passent ou ne passent pas bien la barrière hémato-encéphalique. Il faut des petites molécules, en général.
Non, une seconde.
Vous avez parlé, enfin, vous avez dit le stress, accident et le vieillissement, réduction de l'oxygène, peut conduire à des espèces dangereuses. Alors, ma question, est-ce que c'est le stress de la vie courante ? Et deux, la réduction d'oxygène, comment peut-on avoir un manque d'oxygène ? De quelle façon ?
Ah non, alors rassurez-vous, madame, ce stress-là, ça fait partie de la vie. Notre vie est basée sur le fait qu'on a besoin d'oxyder des choses et on prend de l'oxygène moléculaire. Et on a besoin de réduire un certain nombre de choses dans notre corps, on a besoin d'électrons. Alors, on ne peut pas dissocier ce phénomène. C'est fondamentalement à la base de notre organisme. C'est imaginer un petit moteur dans lequel vous avez à la fois de l'oxygène, d'un moteur à explosion, de moteur à essence, vous avez un carburant et qui va s'enflammer, exploser avec de l'oxygène, de l'air que vous mettez. C'est la même chose. Dans notre petit moteur, on a besoin d'oxygène. Donc on ne peut pas imaginer. On fait avec. Simplement, on ne fait pas d'excès pour détraquer le système. C'est juste ce que je voulais dire. Essayez de rester ça. Donc, voilà. On essaye de gérer. Mais autrement, on n'a pas de système magique qui découplerait l'utilisation des réducteurs et de l'oxygène moléculaire. Ça, c'est la mort. On arrête de respirer.
Madame.
Est-il exact que les anesthésies générales sont de nature, enfin les ingrédients qu'il y a dans l'anesthésie générale sont de nature à réduire la masse des neurones, et notamment si on est amené dans sa vie à avoir un certain nombre d'interventions chirurgicales?
D'un point de vue épidémiologique, je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que les personnes qui ont eu un nombre important d'anesthésies générales, des personnes, des grands accidentés de la route, qui ont subi 10-15 opérations, et développé de manière significative plus de maladies d'Alzheimer que d'autres. Donc je ne sais pas répondre à cette question. Je pense intuitivement, je dirais non, mais je n'ai pas de... De toute façon, les anesthésies générales répétées, c'est un nombre très limité de personnes. Je n'ai pas non plus la cartographie complète et les statistiques complètes sur le nombre de personnes ayant subi en France dans les 20 dernières années plus de 10 anesthésie générale au cours de leur vie. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question.
Monsieur.
Vous avez donné des chiffres intéressants. En 2010, 430 000 malades d'Alzheimer et en 10 ans, 1 million. Donc, un doublement en l'espace de 10 ans. Vous avez dit aussi que la recherche était extrêmement coûteuse. Donc, une souris transgénique, 1200 euros par rapport à une souris normale, 10 euros. Quelle est ma question? Quel est le montant de la recherche pour cette maladie atroce?
Je vous rassurer, c'est pas le coût des souris. Le coût des souris, c'était juste là pour vous expliquer que ce modèle de souris transgénique, il est compliqué, il est dur à gérer, et c'est surtout ça. Autrement, on peut estimer que sur les 20 dernières années, il y a eu plus de 20 à 30 milliards d'euros d'investis sur la recherche maladie d'Alzheimer. C'est probablement des maladies sur lesquelles il y a le plus d'investissement. Voilà. Avec le cancer, parce que le cancer, on imagine, c'est aussi une maladie qui touche beaucoup de personnes. Donc voilà. Donc c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de comprendre au mieux la maladie, avoir les outils qui permettent d'avoir des modèles animaux prédictifs, de façon à sélectionner les molécules de manière efficace. Actuellement, il y a tellement de différences entre ce qui a été fait chez ces modèles animaux et puis le manque d'efficacité des nouvelles molécules chez l'homme, qu'il y a un grand désespoir chez les cliniciens qui, depuis 10 ans, ont eu à mener des essais cliniques infructueux. Donc, il y a des doutes, il y a des questions et on bute en fait sur le fait qu'on n'a pas encore tout compris sur la maladie et qu'on n'a pas de bons modèles animaux. Voilà. Donc c'est pas seulement une question d'argent, c'est une question, il faut injecter de la matière grise, du savoir, des connaissances et aussi peut-être injecter un peu d'originalité. Je crois beaucoup à la créativité, à la personne qui dans son coin a une idée originale. Les bataillons actuellement de chercheurs ont tendance à être formatés dans les grandes entreprises, dans les grandes structures. On suit le mouvement d'opinion. Voilà, c'est. Chez les banquiers, c'est pareil. Quand il y a une bêtise à faire, ils font toute la même bêtise en même temps.
On va prendre encore deux ou trois questions, pas plus.
Je voulais vous demander, dans l'étude de l'accumulation du cuivre, du fer et du zinc, et éventuellement de l'aluminium, pourquoi vous êtes limité à cette série de 4, le bismuth et
parce que c'est les 4 qui ont été impliqués. Il n'y a pas de manganèse dans le cerveau, il y a très peu, il n'y a pas d'autres ions métalliques. Les ions métalliques qu'on trouve dans le cerveau. Alors, l'aluminium, parce que ça avait été largement discuté dans les années 1970 avec les casseroles en aluminium. Et après, pour le reste, c'est les éléments, les ions métalliques les plus abondants dans le cerveau. Une quantité incroyable de zinc, par exemple.
Monsieur.
Bonjour. Y a-t-il des exercices ou des activités qui soient bénéfiques? Je pense tout particulièrement à l'apprentissage de langues étrangères. Ou est-ce qu'une personne de 65 ans peut retarder l'arrivée de la maladie d'Alzheimer?
J'ai parlé de changeux, de plasticité neuronale. Le message de changeux, en fait, c'est que le cerveau ne s'use pas si l'on s'en sert. Contrairement au slogan pour les piles électriques Vandaire. Voilà. Donc, utilisez votre cerveau pour faire toutes les activités intellectuelles. La lecture de Proust, si Proust vous intéresse, ou autre chose. Toute activité intellectuelle réduite est néfaste, d'une manière générale, pour l'homme. Alors, je ne sais pas si c'est bon pour la maladie d'Alzheimer, mais mon message, c'est que c'est tout de même avoir une mal utiliser son cerveau, c'est dommage. C'est une belle machine qui fonctionne bien. Donc, ayez le maximum d'activité cérébrale au meilleur niveau.
Bon, on prend une dernière question, monsieur.
Ma question est un peu connexe à la précédente, mais peut-être même un peu antérieure. Parce que finalement, vous nous avez dit beaucoup de choses passionnantes, mais
sauf erreur, il me semble que vous n'avez pas répondu à la préoccupation de l'homme de la rue ou de la femme de la rue que je suis. C'est que, avant ce constat terrible que vous avez cité, je ne me rappelle plus, je ne reconnais pas la rue où j'habite, hein, et on a, je crois, cité ça pour Aragon, qui, dans sa bibliothèque, se disait « Mais qu'est-ce que c'est cette pièce ? Comment s'appelle cette pièce où il y a plein de livres ?» Et il ne savait plus que c'était une bibliothèque. Mais ma question est la suivante. Finalement, entre les petits oublis normaux et tout ce qui ensuite ne devient pas normal, où est-ce que la personne de la rue peut se documenter pour faire sa propre pré-investigation et pas arriver chez son médecin généraliste au risque de que celui-ci vous dise « Mais mon pauvre monsieur, vous êtes un cinglé, vous inquiétez, ça va pas la tête, bon, justement. » Bon. Où est la frontière et qu'est-ce qu'il faut, où il faut chercher
dans la documentation ? Soyons précis, je ne suis pas médecin. Et je ne suis pas en train de faire un exposé de consultation collective sur les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer. Donc, il y a effectivement une différence très nette entre avoir les petits oublis à partir d'un certain âge et le début des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Je ne suis pas un spécialiste en tant que médecin de la maladie d'Alzheimer, donc je reste sur un domaine qui est celui que je connais à peu près. Et je conseillerais à toute personne ayant des angoisses de consulter son médecin traitant habituel pour bien faire la différence. Il y a un certain nombre d'exercices qui sont pratiqués dans des centres hospitalo-universitaires qui permettent de faire la différence entre des pertes de mémoire dues au vieillissement et le début d'une maladie d'Alzheimer. Mais c'est du domaine médical, et là je vous conseille de consulter si vous avez des inquiétudes dans ce domaine.
Voilà. Bien. Merci Bernard Meunier sur ce constat encourageant.